Dan Gagnon pour le podcast Tout Seul, c'est le numéro 34. Aujourd'hui, ça va être un podcast rempli d'histoires et d'anecdotes sur le monde du sport, mais plus précisément sur les plus grandes histoires de tricherie du monde du sport. En cherchant un sujet pour l'épisode du jour, je me suis souvenu qu'il y a quoi, 12 ans peut-être à peu près, j'avais coécrit un livre avec Renaud Coppens et Benoît Gueuders en Belgique. Je travaillais pour une radio qui s'appelle Radio Énergie à cette époque-là. Benoît Gueuders, journaliste sportif, me dit, il est en train de travailler à son bureau. Je lui demandais ce qu'il fait. Il dit, ah, mais j'ai peut-être des nouvelles piges pour un journal sportif. Et je suis à la recherche de sujets. Je fais, ah, quand je suis arrivé en Belgique, je cherchais à faire un peu de sous de toutes les manières possibles, de me faire connaître dans le monde médiatique, de toutes les manières possibles. Et j'avais écrit un article pour un magazine qui s'appelle Le Vif L'Express en Belgique. Sur des tricheries dans le monde du sport. J'ai dit, j'ai encore ma documentation, si tu veux, je peux t'envoyer ça. Et Renaud Coppens, qui est devenu plus qu'un ami, le comparse de tout ce que j'ai fait, le réalisateur d'à peu près tous mes projets, je suis le parrain de sa fille aujourd'hui, donc ça donne un peu une idée, me dit, ah, mais c'est quand même intéressant. Il se met à fouiller un peu avec nous. Et à force de parler, au bout de 15 minutes, on se dit, mais en fait, on a peut-être de quoi faire un livre. Et on est super excités, on est trois jeunes qui sont vraiment tripons sur le sport. Et moi, ma manière d'envisager les histoires sportives, ça a toujours été la même. Si elle est bien racontée, une histoire sur le sport, pas sur les résultats, hein, mais sur l'histoire du sport, devrait intéresser même les gens qui ne s'intéressent pas au sport. Si ce n'est pas le cas, tu peux mieux la raconter. Donc on part avec ce principe-là, en disant, on a quand même, je veux dire, de quoi probablement vendre le livre. Donc on cherche, on se fait une nouvelle réunion où chacun arrive avec le maximum d'histoires et on en sélectionne une trentaine et on se divise le travail pour fouiller chacune sur ces années d'autres-là, voir s'il y a suffisamment de choses à dire. Et quand on a notre contenu, on dit, bon, on va contacter un éditeur. J'avais un contact dans une maison d'édition et on fait une rencontre et la personne est intéressée. Cherche des manières un peu de booster le livre. On trouve un dessinateur de presse qui se spécialise dans le sport, Pader, qui fait un bon travail en Belgique depuis des années. Et c'est déterminé. Le livre va avoir, j'avoue, je me souviens pas si c'était 25 ou 30, mais je me souviens que le titre, c'était un mensonge. C'était déjà genre les 30 ou les 25 meilleures histoires de tricherie et il y en avait genre une de moins. Je m'en suis rendu compte après et pendant les contacts avec la presse, je disais que c'était voulu, que c'était comme un genre de Easter egg, des couilles. C'est juste que ça sonnait mieux 25, je crois. Et donc voilà, il y avait une histoire en 3-4 pages et puis un dessin. Donc c'était un chouette livre, honnêtement. Et pour une des rares fois de ma vie, j'ai réussi à en vendre quelques-uns. Donc ça a quand même assez bien fonctionné. Et en cherchant donc des histoires pour aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, je pourrais faire ça totalement. Un résumé des meilleures histoires de tricherie dans le monde du sport. Donc, c'est parti. On commence avec Rosie Ruiz. Rosie Ruiz, c'est une marathonienne qui a une particularité. Elle a fait parler d'elle après avoir battu son record de manière magistrale au marathon de New York. Et si je vous disais comment vous faites pour tricher dans un marathon, on peut peut-être prendre des stéroïdes, hein? On peut peut-être avoir quelqu'un qui court à notre place. Non, c'est... Rosie Ruiz, elle, elle ne s'est pas cassé la tête plus que ça. Vous savez ce qu'elle a fait pendant le marathon? Elle a pris le métro. Et voilà. Après quelques kilomètres, elle a pris le métro, elle est réapparue plus tard et elle a gagné. Le problème, c'est que son temps était super louche par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Donc les gens ont vérifié un peu. Ce qui a aussi été très louche, c'est qu'ils cherchaient une photo d'elle pour mettre dans la presse, tu vois, après sa belle performance. Et ils n'en trouvaient pas sur le parcours. Et donc, ils ont commencé à fouiller et se sont rendus compte qu'il y en a qui l'avaient vu dans le métro. Et ils se sont rendus compte que donc, pour te qualifier pour ce marathon, il fallait que tu aies fait un bon temps à un autre marathon. Et elle avait aussi triché à celui pour se qualifier. Donc, c'est une technique qu'elle avait mise au point. Donc, New York et Boston, Rosie Ruiz, pour moi, c'est pas encore la personne qui a fait le moins d'efforts pour arriver à son résultat, mais elle est sur le podium. Parce que la personne qui, pour moi, a eu l'idée la plus simple au monde pour tricher, c'est un certain Sylvester Carmouche Jr. On se transporte le 14 mars 1991, donc 91. Cette journée-là, Sylvester Carmouche Jr. est condamné à 30 jours en prison, puis 250$ de frais. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Sylvester Carmouche Jr. est un jockey. Et un an auparavant, plus ou moins le 11 janvier 1990, donc 1990, il est au Delta Towns Track. Et sa cote pour son cheval, qui s'appelle Something Strong, est à 23 contre 1. Donc, c'est pas bon. Mais malgré tout, il finit une seconde et demie plus rapidement que le record de la piste. Bref, c'est un cheval vraiment moyen, quelqu'un qui a une chance sur 23 gagnée selon les parieurs et qui finalement, boum, explose tout et bat le record de piste. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, cette journée-là, sur la piste du Delta Towns, il y avait beaucoup de brouillard. Il fallait faire deux tours de piste. Ce que Sylvester Carmouche s'est dit, c'est, tu sais ce que je vais faire? Je vais me cacher dans le brouillard. Donc, tout le monde part, les gens le dépassent. Il arrête son cheval au milieu du brouillard. Il laisse les autres faire un tour de piste. Quand il commence à les entendre, il renvoie son cheval, qui repart comme une balle, forcément à ses frais. Et c'est comme ça qu'il bat le record. Dès la finale, les gens commencent à trouver ça louche. Apparemment, son cheval avait l'air tout frais. Il n'y avait pas de traces de sueur. Et quelques minutes après, il était disqualifié. Ça a mis environ un an avant que le procès arrive à terme. Au final des 30 jours, le juge en a suspendu 20. Carmouche a fait appel, mais il demeurera dans l'histoire, n'empêche celui qui a trouvé la stratégie la plus simple pour tricher. On se transporte maintenant dans un autre sport, et certainement à une autre époque, le baseball. Si vous écoutez depuis l'Europe, le baseball, ça doit vous apparaître comme étant quelque chose d'assez chiant. C'est un sport très lent. Et d'ailleurs, le surnom du baseball aux États-Unis, c'est America's Pastime. Donc vraiment, hobby plus que sport. Moi, j'ai une ligne en général dans ma tête. Et je me dis que tout sport que tu peux faire en fumant une clope peut quand même être un sport, mais disons, est dans une autre catégorie. C'est forcément beaucoup moins vrai pour une partie des athlètes aujourd'hui. Et puis, c'est vraiment, il y a certains athlètes qui sont totalement en forme, d'autres moins. Mais là, ça se passe en 1919, à une époque où les athlètes n'étaient pas payés à coups de millions comme c'est le cas aujourd'hui. Et si l'histoire vous dit quelque chose, c'est parce qu'il y a un film qui est sorti et on va s'en reparler après. À cette époque-là, il y a un chef d'un réseau de gambling qui approche les White Sox de Chicago et leur propose 5 000$ chacun pour truquer la finale, qu'on appelle le World Series, donc la série mondiale. Il y avait 9 matchs au total qui étaient joués. La première équipe qui en remportait 5 gagnait le World Series. En 1919, 8 joueurs des White Sox décident d'accepter la proposition. Il y en a un qui a refusé la proposition, mais il a choisi de ne rien dire. Le signal était celui-là. Pour le premier match, le lanceur devra atteindre avec son offrande, donc avec sa balle, le premier frappeur. Donc, t'as quelqu'un qui lance, quelqu'un qui essaie de taper avec une batte, en gros. Et si le lanceur touchait ce premier frappeur en lançant directement dans son dos, c'était le signal envoyé aux mafieux que les joueurs avaient accepté la proposition et que le pari allait être tenu. Directement, une tonne de pognon se met à être investie et misée sur leur adversaire, donc les Reds de Cincinnati. En théorie, les choses devraient se passer de manière assez smooth, ils essaient de perdre de manière pas trop louche, et on passe à la suite. Le problème, c'est que, alors que les Reds mènent dans la série, les White Sox sont pas contents, parce que normalement, l'accord, c'était qu'après chaque défaite, ils recevaient une somme. Et quand ils ont voulu réclamer la somme, les mafieux leur ont dit « Ouais, mais tout notre argent est dans le système de paris, donc ça va aller à plus tard. » Et donc, les joueurs des White Sox se disent « C'est pas très grave, on va leur mettre la pression, on va gagner les deux prochains matchs, et comme ça, ça va leur mettre un petit coup et on va pouvoir recevoir notre argent. » Et surprenamment, quand tu essaies de mettre de la pression sur la mafia, elle ne réagit pas très bien. Donc le résultat, ça n'a pas été qu'ils ont reçu leur argent. Le résultat, ça a plutôt été que leurs familles ont été menacées. Ils ont fini par perdre donc la Série mondiale, le World Series. Mais directement, les gens ont commencé à trouver ça louche. Il y a eu des enquêtes, il y a eu procès. Et à ce jour, ils sont encore bannis du baseball. Ils étaient surnommés les White Sox, donc c'était le nom de l'équipe, et les White Sox, pardon, ont été surnommés les Black Sox, parce qu'ils avaient sali le sport. Un des joueurs, Shoeless Joe Jackson, est un des très bons joueurs de l'époque, un des meilleurs joueurs de l'époque, considéré comme une légende de l'histoire du baseball, et encore aujourd'hui, il n'est pas au temple de la renommée, au Hall of Fame, à cause de cette histoire. Et je vous disais, si ça vous dit quelque chose, vous avez peut-être vu un film qui s'appelle « Eight Men Out », c'était en 1988 et c'était basé sur un livre écrit par Asimov. Et c'était une manière un peu, genre, ils ont remis de la fiction dans le scandale. Mais, donc 1988, dans les acteurs, il y avait John Cusack, il y avait Charlie Sheen et il y avait aussi Christopher Lloyd. Christopher Lloyd qui joue le Doc dans Retour vers le futur. Et ce qui m'a fait rire avec Christopher Lloyd joue un joueur de baseball. C'est bon, il a un visage assez caractéristique et il interprétait un joueur qui s'appelle Bill Burns. Et le surnom de Bill Burns, c'est Sleepy Bill Burns. Et je trouve que Christopher Lloyd va très bien avec Sleepy Bill Burns. Je termine avec deux histoires de tricherie et je vous annonce déjà que le prochain épisode, ça va rester dans le monde du sport. Ben, ça va être sport et divertissement, show business en gros. Et cette fois-ci, je vais parler des superstitions. Des superstitions et des sorts qui ont été jetés à certaines équipes ou à certains athlètes ou à certains artistes. Je pense que ça va franchement être très intéressant. Donc, j'aimerais avec deux histoires. On reste dans le sport américain pour parler de Troy Aikman. Troy Aikman, c'est un ancien quart arrière, donc quarterback de football, donc football américain, qui jouait pour les Cowboys de Dallas. Il était là à une époque où les Cowboys de Dallas étaient littéralement une dynastie. Et la façon dont ça fonctionne au football américain, c'est que la superstar, c'est le quarterback. Le quart arrière, vous l'avez vu dans plein de films, c'est certain. Et cette personne, en gros, c'est elle qui reçoit toujours le ballon. Et après ça, elle doit faire le choix de donner le ballon à quelqu'un qui va courir avec, faire une passe à quelqu'un qui va essayer d'aller dans la zone de but, ou elle-même tenter un jeu en courant. Mais règle générale, c'est je le donne à quelqu'un qui court, je le donne à quelqu'un par la voie des airs, si on résume. Et cette personne, donc voilà, est la superstar de l'équipe, et elle est protégée, parce que devant elle, il y a ce qu'on appelle la ligne à l'attaque. En football américain, c'est pas compliqué, t'as la défense et l'attaque, jamais en même temps sur le terrain, et t'as 3, 4, 5, 6 gros bonhommes qui sont là pour protéger le quarterback, puis en face, t'as 4, 5, 6 gars qui vont essayer de taper le quarterback, si on résume vraiment grossièrement. Et c'est pour ça que le quarterback prend toujours soin de sa ligne à l'attaque, parce que c'est eux qui le protègent. Entre les branches, on raconte que souvent le quarterback va aller au resto et c'est lui qui va payer la note pour ses joueurs de ligne à l'attaque qui sont moins populaires, moins connus, moins bien payés. Mais il sait que c'est sa police d'assurance. Et il y a des rumeurs, comme quoi Troy Aikman n'était peut-être pas celui qui prenait le mieux soin de sa ligne à l'attaque. Et ce ne sont que des rumeurs encore une fois, mais Troy Aikman a subi énormément de commotions cérébrales dans sa carrière. Et ce qui est raconté dans des couloirs sombres et des parkings déserts, c'est que ce n'est pas impossible que certains joueurs de la ligne à l'attaque aient décidé de se venger contre Troy Aikman en considérant qu'il ne le traitait pas assez bien, qu'il prenait un peu la grosse tête, en « oups » laissant passer parfois un joueur adverse pour qu'il puisse se rendre jusqu'à lui. C'est pas une histoire de tricherie au sens premier où on peut l'entendre, mais ça demeure quelque chose de très louche avec le sport. Je disais qu'il restait deux histoires, j'ai menti, il en restait trois. Boum, on reste dans le thème de la tricherie. Deux équipes danoises jouent au football, donc le soccer, football européen. Örebro et Göteborg. Certainement, c'est pas comme ça que ça se prononce. Après 20 minutes, l'arbitre arrête le match Parce qu'ils se rendent compte que le but n'a pas l'air d'être dans la largeur réglementaire. Et donc, il va voir le gardien de Göteborg, Kim Christensen, en disant il faut qu'on mesure, ça me semble louche. Et donc, il mesure, effectivement, le goal a une vingtaine de centimètres trop petit. Et donc, ils se sont dit, mon Dieu, une erreur. Il replace le goal, il continue le match. Mais il y a des caméras qui ont été vérifiées. Et il s'est rendu compte que Christensen s'amusait à donner des coups de pied sur ses poteaux le plus souvent possible pour pouvoir réduire la taille du goal. Et ça, non seulement ce n'est pas qu'une rumeur, parce que lors d'une entrevue accordée le lendemain, le gardien a avoué que c'est quelque chose qu'il faisait à plusieurs reprises. Ça demeure quelque chose de simple, mais efficace, qui serait totalement, je crois, impossible aujourd'hui avec les 26 caméras qui sont en même temps sur chaque joueur sur le terrain. Voilà, celle-là m'avait fait rire. Et la dernière, elle est incroyable. Le fait que ça soit passé en 2000 me semble hallucinant. On est donc aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Et dans ces Jeux paralympiques, il y avait une compétition de basketball réservée aux personnes avec un handicap mental. Cette compétition a été remportée par l'Espagne en 2000. Et il y avait juste un léger souci. Après avoir remporté la médaille d'or, il y a des gens qui se sont rendus compte que des 12 joueurs de l'équipe espagnole, il y en avait 10 qui n'avaient pas de handicap mental. Je comprends que tu as envie de gagner une médaille dans la vie, mais faire semblant que tu as un handicap mental pour piquer littéralement une victoire à d'autres athlètes avec un handicap mental, c'est vraiment petit. C'est tellement bas que pour moi, c'est la pire histoire de tricherie dans celle que je vous ai racontée. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Tel que promis, dans le prochain épisode, ce sera les meilleures histoires de superstition. Merci d'avoir suivi. Il y a une nouveauté avec le podcast, si vous le suivez en audio, soit sur Spotify, directement sur le Patreon. Merci beaucoup d'ailleurs, si c'est le cas. Ça me fait plaisir de continuer d'avoir beaucoup d'échanges avec vous aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. J'ai maintenant rajouté les épisodes sur YouTube. Ils sont pas tous là, j'ai quelques épisodes, mais au fur et à mesure, je les remets sur YouTube parce qu'apparemment, il y en a pour qui c'est chiant ou compliqué ou juste pas envie d'écouter ça via podcast. Et il y en a beaucoup, ça, je ne savais pas apparemment, qui écoutent des trucs audio sur YouTube. Donc, il y a simplement le logo de l'émission et puis après ça, c'est l'épisode comme vous l'entendez, comme vous venez de l'entendre. Si vous connaissez des gens qui aimeraient écouter le podcast, mais qui disaient que les podcasts, la logique, ça les faisait un peu chier, eh bien, vous pouvez leur envoyer donc le lien YouTube. Et j'ai une page aussi, vous pouvez vous abonner. J'essaie de mettre d'autres contenus. J'ai mis mon dernier one-man show qui s'appelle Rose, que j'ai fait il y a 2 ans. Aussi gratuit sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez vous abonner tout simplement. Donc, merci beaucoup. J'ai plus rien à dire. OK, bye-bye.